cru mourir de joie la dernière fois que je t'ai vu voler à côté de moi.
Mais quelle dernière fois, je ne me souviens pas.
On s'embrassait en plein ciel, au-dessus du ciel.
Ah oui.
Ah oui.
Ah oui.
Ah oui.
Il n'y a pas de lien entre des questions éthiques posées par la maladie et le handicap. Témoin sourd, témoin silencieux, c'est le titre du film de Brigitte Lemaine consacré aux persécutions dont ont été victimes les personnes sourdes, principalement en Allemagne pendant le régime nazi. Ça commence bien avant la guerre de 40, ça commence dès les années 30. Brigitte Lemaine.
En 33, il y a la fameuse loi sur l'hygiène raciale qui touche un grand nombre de personnes handicapées et malades mentales. Dans le domaine de la stérilisation, c'est-à-dire que dès juillet 34, on applique les mesures sur la stérilisation et on, en ce qui concerne les sourds, on investit dans les écoles, on fait remplir des papiers pour savoir si les sourds sont sourds de naissance et s'ils sont sourds de naissance, hop, ils sont stérilisés.
Ouais, parce qu'il y a, alors il y a un texte de loi qui date des années 30 en Allemagne qui dit si on est victime d'une maladie héréditaire, et alors là, à l'époque, l'hérédité est très large, on peut stériliser. Et puis très vite, ça devient coercitif.
Oui, c'est-à-dire que si on n'y va pas de soi-même, eh ben, la police vient vous chercher. C'est-à-dire que bon, pour les enfants, ça se traduit par, dans les institutions, c'est les professeurs ou les directeurs qui les amènent, et quelquefois des classes entières, parce qu'on ne tient pas compte du fait qu'on soit né sourd ou pas. Et puis pour les adultes, il faut qu'ils se présentent. Et s'ils se présentent pas, ils vont être. Il faut qu'ils s'échappent, parce que c'est le cas d'un des témoins. Il va partir avec sa mère parce que son frère et sa sœur ont déjà été stérilisés.
Et alors dans ce film, ce qui est tout à fait saisissant, c'est que vous faites témoigner des personnes, des historiens, qui sont des personnes entendantes et donc qui parlent dans le film, et puis des personnes sourdes. Des témoignages d'une femme allemande, enfin d'une fratrie, là, et donc qui sont des personnes sourdes, qui parlent en langue des signes, et qui sont sous-titrées, et on mesure très bien, par l'alternance de ces témoins qui parlent et de ces témoins qui ne parlent pas, le fait qu'on n'en a jamais entendu parler, et pour cause, les témoins ne parlent pas.
Ils ne peuvent pas parler, oui.
Et c'est la raison pour laquelle on sait très peu de choses sur ces persécutions dont ont été victimes les sourds.
Oui, c'est-à-dire, non seulement ils ne peuvent pas parler, mais la langue des signes est interdite. Donc, ils sont dans un contexte où, si vous voulez s'exprimer dans leur langue, de toute façon, on les entendrait pas. Donc, Horst Bisold, qui est un formateur de professeurs pour sourds en Allemagne, d'origine suédoise, donc sensibilisé à l'eugénisme, etc., s'aperçoit que parmi les sourds, il y en a qui ont un comportement quand même qui sont rejetés par la communauté sourde et par les professeurs, etc. Et il s'aperçoit que ces gens-là, c'est parce qu'ils ont été stérilisés qu'on ne veut pas d'eux. Parce que, y compris dans la communauté sourde allemande ou dans le contexte plus large des familles de sourds, des familles qui ont des enfants sourds, on ne veut pas entendre parler de cette question de la stérilisation.
Après la guerre.
Hein. Après la guerre.
Et donc le silence va rester pendant longtemps.
Et
c'est finalement aux États-Unis ou le plus loin de l'Europe, finalement, que va sortir ce secret-là.
Voilà, parce que Simon Carmel, c'est au Congrès national des sourds juifs à Atlantic City en 58, il rencontre un couple de sourds juifs polonais, Solomon et Regina Golfinger, qui ont survécu au camp.
Il y en a aujourd'hui. Et sans doute encore plus en France aussi, les médecins sont très mal à l'aise avec cette période de l'histoire, puisque la médecine est au cœur du dispositif nazi.
Oui, qui stérilise, c'est les médecins, et dans tous les hôpitaux.
Mais sur les témoignages que vous avez des gens qui reviennent d'Auschwitz, les médecins sont la première personne qui accueille, c'est un médecin. Et
c'est
un médecin sur place qui fait, si on peut utiliser ce mot-là, l'orientation.
C'est ça. Et comme les sourds, ça se voit pas. C'est-à-dire que les handicapés, tout de suite, ils les mettent soit à l'expérimentation avec Mengele
et vous avez un témoin qui raconte ça dans le film.
Oui.
elle est sourde, ça s'est pas vu, elle disait rien, forcément. Elle est passée pour étant très timide, simplement.
Voilà. Mais après, il faut quand même se maintenir. Donc, il faut être protégé par les autres. Parce que là, j'ai eu le témoignage en montrant le film d'une femme dont la jumelle était sourde, qui est rescapée d'Auschwitz. Et elle dit qu'à l'arrivée, à la sélection, ils ne s'en sont pas aperçus. Elles étaient toutes les deux... elles se ressemblent, machin. Il y en a une qui parle, donc l'autre parle. Et puis, dans les baraquements, là, il y a un SS qui arrive, qui hurle un ordre, etc. Sa sœur lui demande de traduire. C'est terminé, le type lui tire dessus. Il voit qu'elle parle en langue des signes, il lui tire dessus.
A commencé cette idée. Alors on va rappeler que vous avez des grands-parents qui sont sourds,
oui.
Vous avez été élevé par eux, vous parlez la langue des signes.
Oui. Et bien en 92, on me demande, Stéphane Gatti, qui a co-réalisé avec moi ce film, me demande de participer à la pièce de son père, Le chant d'amour des alphabets d'Auschwitz, pour l'anniversaire triste de la rafle du Veldiv à Drancy, et c'est en Seine-Saint-Denis, et il me dit, mon père voudrait qu'on apprenne la langue des signes aux acteurs, parce que lui, il était dans un camp où on ne pouvait pas parler, parce que c'était sous la mer, etc. On devenait sourd, donc tout le monde parlait par signes. Et donc, il se souvient de ça. Il voudrait que tu enseignes la langue des signes aux acteurs. Et parce que c'est un alphabet, tu leur enseignes l'alphabet. Et puis, moi, je dis, bah, d'accord, mais il faut au moins qu'il y ait un comédien sourd, parce qu'on a des comédiens sourds, et c'est bien gentil d'apprendre la langue des signes aux entendants, mais c'est aussi bien de voir que c'est une vraie langue et qu'il peut s'exprimer dans une vraie langue. Et il me dit d'accord, et puis je lui dis par ailleurs, moi, mes grands-parents étant sourds, ils m'ont raconté un peu ce qui se passait pendant la guerre, c'est confus, j'aimerais savoir, et est-ce qu'on peut faire un débat là-dessus? Et Stéphane me dit d'accord, comme il y avait plein de débats autour de la pièce, il me dit d'accord, on fait un débat à la bibliothèque de Bagnolet.
Alors vous avez filmé ce débat,
on a filmé,
et vous commencez à le présenter, et là on vous dit, il y a des gens qui vous disent, ah non, il faudrait mieux pas le montrer.
En France, on est inquiet, donc bon... le débat, on me demande un montage pour le deuxième congrès sur l'histoire des sourds à Hambourg, parce qu'il y a un département de langue des signes à Hambourg. J'y vais avec ce montage qu'on fait vite fait, sans argent, etc. Et puis là, il y a des historiens américains, les sourds allemands et les deux sourds juifs allemands qui existent encore m'ovationnent pendant un quart d'heure et disent bon ben on va montrer le film à Berlin, au Asakino, etc. Je m'en rends compte qu'il y a
vous pensiez pas au début susciter à la fois une telle émotion et un tel intérêt?
Ouais,
vous saviez pas dans quoi vous engagez là?
Non.
Et alors par contre il y a des gens qui vous disent non c'est trop.
Voilà, je reviens en France, à la Maison des Arts de Créteil, je le présente, Didier Fusier me donne 2 jours et puis je le présente. Et puis une personne qui témoigne dans le film, qui une semaine m'a donné l'accord
Pour le présenter,
pour finalement, elle vous dit non. Et tout d'un coup, devant tout le monde, elle me dit non, faut pas le montrer, c'est pas vrai, etc. Parce que dans le film, elle dit un tel dénonçait les sourds juifs. Voilà, c'était en France et c'était quelqu'un de la Fédération des Sourds. Et la présidente de la Fédération des Sourds se trouve mal, il faut l'évacuer. Enfin, tout ça fait un scandale et on m'interdit de montrer le film en France. Et je dis, bon, bah tant pis.
Ça, c'était en quelle année?
C'était en 93.
Donc ensuite, vous avez refait un deuxième film, qui est celui qui est présenté vendredi.
Oui, Stéphane avait tourné en partie à Auschwitz. Moi, je pars en Allemagne et je vais tourner dans les musées... je vais rencontrer cet historien Horst Bisol qui a travaillé sur la question de la stérilisation, qui a fait une exposition, qui a tourné, qui a écrit un livre, Crying Hands. Et puis je retrouve un témoin que j'avais rencontré à Berlin, Kurt Eisenblatter, qui est un grand mime sourd de l'époque de la RDA et qui, bon, le mur est tombé, il me dit, moi, aujourd'hui, il m'avait dit quand j'étais allée à Berlin, si tu veux parler de la période d'Hitler, moi je suis là, hein. Donc je vais le voir. Et puis, il me sort tout ce qui lui est arrivé. Lui est d'une famille de sourds. Son père était communiste. Il s'est retrouvé à Sachsenhausen. Son père a été tué. Et puis, Et puis son frère et sa sœur ont été stérilisés. Lui, il a fui avec sa mère pour échapper à la stérilisation. Et puis, il raconte tout ça dans le film.
Et... Donc, stérilisation forcée, extermination, quand on envoyait en déportation soit des communistes ou des juifs ou des gens qu'on exterminait, on exterminait d'abord ceux qui avaient des problèmes de santé.
Bien sûr.
Mais la déportation, le handicap ou la surdité n'était pas un objet en soi de déportation.
Pour le T4, par exemple, parce qu'en 40, il y a le T4.
Le T4, donc, c'est la politique nazie d'extermination, d'abord de stérilisation. Hein.
Donc, il y a d'abord la stérilisation, ensuite, il y a le T4, c'est l'extermination des personnes qui sont à l'hôpital, psychiatriques et autres, d'ailleurs. Hein. Bon, et là, il y a, dans ce T4, il y a 1600 sourds, et on dit même qu'on est allé chercher des sourds en famille. Alors, pourquoi est-ce que c'est des familles qui collaboraient et qui ont donné leurs enfants? Est-ce que c'est des familles à qui on a retiré leurs enfants, parce que, etc. Donc tout ça est quand même encore en suspens. Là, il y aura un historien de Claire Ambrosilli qui participe au film, sera là à la table ronde l'après-midi. Un autre historien l'a fait aussi, qui a travaillé là-dessus. Mais bon, à partir du moment où on zigouille les gens et qu'il n'y a pas de survivants, c'est difficile de témoigner. Hein, et les familles, elles sont dépossédées. Le T4, on leur envoie une enveloppe, on leur dit votre fille ou votre fils ou votre sœur ou votre mari est mort de la tuberculose. On leur dit pas qu'on les supprime.
Alors, on a le sentiment que les Allemands aujourd'hui regardent cette période-là avec lucidité et qu'aujourd'hui, peut-être, est-ce que les Français ont le courage de rouvrir ce dossier-là?
J'espère que là, ça va se faire vendredi. En France, j'ai eu des soutiens, disons, à Strasbourg. Georges Federmann, qui sera présent aussi, qui est un psychiatre qui a fondé le SAC Menahentafel en mémoire des victimes d'expérimentation à l'hôpital de Strasbourg, qui était allemand, et au Struthof, qui était un camp de concentration de Strasbourg. Lui m'a fait venir tout de suite avec mon film pour qu'il soit montré au cinéma, à l'Odyssée, etc. Et il l'a aussi montré à la FNAC. Donc il y a des gens en France qui m'ont donné des soutiens, et puis d'autres qui ne voulaient pas.
Vous avez amené un courrier qui date du 10 août 1934, c'est tout à fait saisissant, enfin une photocopie. C'est une association de sourds, ce sont des communistes, oui, sans doute, hein, français, qui écrivent à l'ambassadeur d'Allemagne à Paris. En 1934, les sourds français savent ce qui se passe pour leurs homologues allemands.
Oui, tout à fait.
Parce que c'est très clair dans le courrier, qu'est-ce qu'ils disent?
Ils lui disent une protestation aussi contre l'odieuse et abominable pratique de la stérilisation que leur applique le régime dégressif nazi, véritable atteinte à la dignité humaine et au relèvement social des déshérités de ce monde. Voilà.
Donc en 34, on le sait.
C'est-à-dire que les sourds ont toujours eu des congrès internationaux, les représentants des associations de sourds se rencontrent chaque année, pratiquement. Et on a prévenu les sourds juifs français de ne pas constituer leur association. Ils ont dissous même leur association en 34, parce qu'on sait déjà dans le monde juif et sourd que les listes vont servir, puisqu'elles servent déjà pour les stérilisations.
Là, de ce point de vue-là, les sourds sont mieux informés, il y a plus de communication entre les sourds, entre les juifs français et les juifs allemands, par le biais des sourds, parce qu'ils parlent mieux entre eux.
Oui, le fait c'est que comme ils ne sont pas écoutés dans leur propre communauté, le monde des sourds, et il y a un monde des sourds très large, en tous les cas en Europe, ils se retrouvent avec les Américains, etc.
Alors, tout n'est pas tout blanc et tout noir, c'est qu'il y a aussi des sourds qui vont être des collaborateurs, ici en France, il y aura des sourds chez les nazis.
Oui.
Ce qu'on n'imagine pas, c'est totalement paradoxal.
Oui, c'est-à-dire que les sourds, les nazis attirent les sourds au départ. Il y a même des camps des jeunesses hitlériennes où il y a des sourds.
Ils vont défendre le principe de la stérilisation.
Oui, ils leur disent, nous on intégrera les sourds, ce qui n'est pas vrai, mais du moment qu'ils ne sont pas de naissance. Alors comme il y a les devenus sourds, il y a les machins, etc. Et ça exclut tous les gens qui sont sourds de naissance, qui ont ça dans leur dans leurs gènes.
Il y a un espèce de discours plus ou moins scientifique qui sert d'alibi à tout ça.
Voilà, on récupère les théories de Darwin, alors que Darwin n'a pas parlé des êtres humains et n'a sûrement pas parlé de stériliser les gens. On dit, voilà, il faut nettoyer la race, il faut se débarrasser des gens qui coûtent cher. Et les gens qui coûtent cher, c'est les handicapés, c'est les malades mentaux, c'est les malades. Dans le T4, il y aura aussi des tuberculeux. Dans les stérilisations, il y a aussi des alcooliques. Voilà, c'est une espèce de... Le handicap, comme un handicap social, comme un handicap de société, ceux qui nous coûtent cher. Voilà, parce qu'il faut remplir les hôpitaux d'autres choses, c'est-à-dire de combattants qu'il faut soigner. Donc, et des sourds vont se laisser avoir, parce qu'on leur prête des salles, parce qu'on leur donne des uniformes, parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont nazis, peut-être... Et donc, ils vont dénoncer les autres. Ils vont dire, lui, il est sourd de naissance, ou lui, il est juif. Et Max Feld, qui est un grand sportif, un grand champion de waterpolo allemand, et qui est sourd et juif, va le dénoncer et va partir à Auschwitz.
Le Maine. Elle est l'auteure de ce documentaire Témoins sourds, témoins silencieux, une réalisation sobre des gens qui parlent, qui racontent, qui témoignent. C'était l'objet aussi d'une conférence hier à l'Hôtel de Ville de Paris, cette question des politiques nazies autour des personnes présentant des problèmes de santé, des handicaps. Et la France dans tout ça, difficile de savoir. Le sujet reste encore tabou. Voilà une page de l'histoire que personne ne semble vouloir ouvrir. On va ouvrir une autre page d'histoire, moins dramatique.